poésie et ainsi de suite. Manu Farine.
Liberté libre, insurrection du langage et liseré orange, aujourd'hui au risque de Rimbaud avec Yannick Hennel.
Ah, cette vie de mon enfance, la grande route par tous les temps, sobre, surnaturellement, plus désintéressée que le meilleur des mendiants, fier de n'avoir ni pays, ni amis, quelle sottise c'était. Et je m'en aperçois seulement. J'ai eu raison de mépriser ces bons hommes qui ne perdraient pas l'occasion d'une caresse, parasites de la propreté et de la santé de nos femmes, aujourd'hui qu'elles sont si peu d'accord avec nous. J'ai eu raison dans tous mes dédains, puisque je m'évade. Je m'évade.
Yannick Hennel, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. L'impossible, un extrait d'une saison en enfer dans la voix du comédien Jean-Quentin Châtelain. C'était sur France Culture en avril 2017. Dans votre tête ou dans votre voix, est-ce que c'est un peu comme ça que vous vous le dites? Comment se dire Rimbaud?
Moi, je me le dis comme j'écris d'ailleurs, dans un murmure, encore plus murmurant, encore plus bas. Mais j'apprécie que ça ne soit pas éructé, justement. Parce que je crois que je crois que les textes les plus ardents, et celui de Rimbaud l'est absolument, n'ont pas besoin d'être proférés, en fait. C'est quelque chose qui est une voix intérieure, en fait. Et cette dimension-là est celle du texte qui cherche quelqu'un, en fait. On ne peut pas chercher quelqu'un en se déchaînant. On cherche quelqu'un à voix presque basse.
Une saison en enfer, donc voilà, le plus halluciné, le plus insolent, le plus infernal des livres. C'est ce que vous commencez par écrire dans la nouvelle préface qui accompagne l'édition anniversaire qui vient de paraître. Hein. C'était il y a 150 ans pour la première parution, la première impression en tout cas. Un bref recueil écrit de ce qu'on sait entre avril et août 1873, imprimé sous forme de plaquette à Bruxelles à l'automne. Un texte en prose entrecoupé de poèmes, un texte inouï dans lequel Rimbaud va recomposer d'une certaine façon son parcours poétique, dans lequel il dit ce qu'il est, c'est dit donc, puisqu'il recompose son parcours poétique. En quelques mots, Yannick Hennel, et je m'adresse peut-être à l'ancien prof de français, qui est-il à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il cherche, puisque vous parliez justement de chercher à l'instant, lui qui finit par dire et dire que je tiens la vérité?
À ce moment-là, il a 19 ans. Il vient de recevoir un coup de pistolet de la part de Verlaine. Il essaye de s'en remettre, de ce coup de pistolet, mais aussi de cette liaison tumultueuse qui va faire le cœur d'une saison en enfer. Et c'est quelqu'un qui a la tentation de dire adieu à la poésie parce que ses textes n'ont pas été entendus, tout simplement. Et surtout, il est venu plusieurs fois à Paris et il a éprouvé une espèce de dégoût vis-à-vis du milieu littéraire. Il pense que les poètes sont tout aussi assis que les commentateurs, que les bourgeois, que tous ceux contre qui il s'élève.
Ce qu'il va appeler un peu le festin ancien.
Voilà, c'est ça, c'est terminé. Et donc, le livre, ce qu'il y a d'extraordinaire encore aujourd'hui, enfin, on lit ça comme si ça venait de s'écrire, enfin, sous nos yeux, c'est que c'est avant tout sarcastique. Avec l'autre Hamon, c'est le seul, enfin, à être entièrement sarcastique. Et il va briser ce qu'il aime le plus au monde, c'est-à-dire la poésie, en lui, ce qui sort de lui. Il va se moquer de son caractère de mage, de poète absolu. Et pourtant, ça continue à nous fasciner. Et même peut-être lui-même avait encore la poésie avec lui, enfin, bien des années après.
Alors, s'il se moque du mage, comme vous dites, vous écrivez dans cette préface, malgré tout, que le texte, lui, relève de la magie. Qu'est-ce que vous y mettez dans ce terme de magie? Est-ce que c'est au sens sacré du terme?
Oui, je dirais que c'est au sens où ça ne parle sans cesse comme toute grande littérature, que du basculement entre la vie et la mort, et la mort et la vie. C'est-à-dire que c'est de la métaphysique gracieuse, la métaphysique qui danse, c'est de l'initiation. Et ce texte de Rimbaud, enfin, au cœur de ce texte, il y a effectivement, comme vous l'avez dit, une récapitulation de ce qu'il a écrit. Et il a l'air dans un acte de dédain, parce qu'il y a beaucoup le mot dédain chez Rimbaud, c'est quelqu'un de dédaigneux, même sur la fameuse photographie légendaire de Carjat. Même s'il y a du dédain, il y a ces 3-4 pages qui s'appellent « Alchimie du verbe », qu'on peut ne pas prendre comme une condamnation, comme il le fait. Moi, pour moi, c'est le programme poétique de toute la modernité, enfin, plus encore que Baudelaire.
Oui, on peut en être émerveillé sans forcément percevoir l'ironie très très féroce qu'il peut y avoir.
Alors on peut la percevoir et s'en foutre. C'est-à-dire que ça c'est quand même magique, voilà. Parce que lui, il se permet de dédaigner ça, mais encore faut-il être capable de tous les enchantements possibles qui traversent son cerveau, comme il dit. Alchimie du verbe, je tiens, c'est dans Délire 2, dans Une saison d'enfer, je tiens ces 4-5 pages pour ce qu'il y a de plus beau en langue française, enfin...
On va y revenir, bien sûr, ces pages-là en particulier. Ce texte, dans son ensemble, et surtout au début, c'est aussi une sorte d'insurrection contre les valeurs du monde occidental, la religion, le travail, la morale. Ça passe aussi par une réinvention, ou une recomposition, ou un saccage, je ne sais pas comment appeler ça, du langage, avec des surprises, avec des glissements. Vous dites que la poésie, vous définissez la poésie, Yannick Haenel, comme l'usage insurrectionnel du langage. Au fond, tout est là. C'est dit, c'est la poésie, c'est Rimbaud.
Mais oui, parce que je pense que, je sais pas, je me mets à la place de quelqu'un qui a 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui lit ça aujourd'hui, c'est de la dynamite, et on peut en faire un usage, effectivement, pour retourner sa vie, pour retourner le monde, enfin. C'est ça l'insurrection, c'est pas nécessairement de provoquer une émeute mondiale, mais c'est de changer sa propre vie, enfin de se convertir à quelque chose de plus absolu, et je crois que l'absolu manque énormément, enfin dans le langage, enfin qui est une espèce d'appauvrissement planétaire organisé, et comment dire, Rimbaud a inventé, j'ai l'impression, c'est comme ça que je l'entends, le rapport, la coïncidence entre la poésie et la vie. Chez Baudelaire, il y a encore une posture un peu artiste. D'ailleurs, Rimbaud le dit, enfin, dans une de ses lettres, même s'il admire Baudelaire. Là, c'est plus la position artiste qui se retire du monde ou qui est séparée de la société. C'est presque une éthique. Rimbaud, c'est ça, Une saison d'enfer, c'est la vie et le langage comme combat qui est exactement comme la vie. Et il a l'impression qu'il n'est pas arrivé à changer quoi que ce soit. Il y a un désenchantement fou à 19 ans, vous vous rendez compte? Il estime que c'est un échec.
Et ben c'est dès cet échec, justement, c'est dès le préambule d'Une saison en enfer. On l'écoute dans la voix de Jacques Gamblin.
Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère. Et je l'ai injurié. Je me suis armé contre la justice. Je me suis enfui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie, pour l'étrangler, j'ai fait le bond sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leurs fusils. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon dieu. Je me suis allongé dans la boue, je me suis séché à l'air du crime et j'ai joué de bons tours à la folie. Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien où je reprendrai peut-être appétit. La charité est cette clé. Cette inspiration prouve que j'ai rêvé.
Alors on va revenir sur ce mot qui vous fait écrire, qui vous intrigue beaucoup, qui est ce mot de charité, mais peut-être un mot déjà rien qu'à l'écoute de ce célèbre préambule. En écoutant déjà ces quelques lignes, est-ce que c'est en ça, Yannick Haenel, qu'on peut parler de champ de bataille d'une anarchie poétique? C'est un petit peu comme ça aussi que vous définissez, que vous évoquez Une saison en enfer. Et à vous entendre, à vous lire, de parler d'anarchie poétique, ça serait presque, c'est presque redondant de dire anarchie poétique.
Oui, c'est un terme que j'ai emprunté à Artaud, l'anarchie poétique. Il y a quelque chose de l'ordre du saccage, effectivement, dans cette première page d'une saison d'enfer. Et en même temps, il y a une sorte d'amour également. Par parenthèse, il y a des guillemets qui s'ouvrent à la toute première page, jadis, si je me souviens bien, ils ne sont jamais refermés. C'est très étonnant. On se demande qui parle. Est-ce que c'est Rimbaud lui-même ou quelqu'un en Rimbaud? C'est aussi ça que j'aime dans la poésie, c'est que c'est une voix qui est... Ce sont des voix plurielles qui ne sont pas assignables, contrairement au langage de communication. C'est quelque chose qui ne cesse de se décaler. Et là, il s'agit de quelqu'un qui règle des comptes avec lui-même, qui aurait eu une expérience maléfique, démoniaque, qui aurait vu la porte des enfers comme Orphée, comme le Christ, enfin, et qui dans l'exaltation survoltée de ce souvenir a quand même gardé quelque chose. La charité est cette clé. Moi, ça m'a toujours intrigué, effectivement, parce que on associe Rimbaud avec raison à ce qu'il appelle lui-même les révoltes logiques. Je pense qu'il fait partie des grands révoltés de la littérature française. Et en même temps, il y a ce terme de diamant, enfin, qui brille, la charité. Et cet amour qu'il a, très étrange, sans doute destiné au langage lui-même, un nouvel amour du langage, je ne sais pas comment dire.
Qu'est-ce que vous entendez, vous, dans cette charité? Parce que c'est aussi un passage où on entend le festin, où on entend aussi quand même un chant biblique, en tout cas dans les figures qu'il peut convoquer, les termes qu'il peut convoquer. Qu'est-ce que vous entendez, vous, dans ce terme de charité sur lequel on a beaucoup écrit, enfin, de toute façon, on a tellement beaucoup écrit de manière générale sur Rimbaud, et on lit bien comme on veut.
Voilà, on fait ce qu'on veut, exactement. Surtout avec Rimbaud, il nous incite à ça. Moi, je lis une saison en enfer comme une réécriture un peu, effectivement, parodique de la Bible, de pas mal de textes, même romantiques aussi. Il y a une déraison rimbaldienne, un sarcasme contre tout ça. C'est aussi un cantique des cantiques, en un sens. La charité, bon, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui s'adresse à l'inconnu lui-même. C'est une chose plus grande que nous, enfin, comme dirait Deleuze. Enfin, c'est pas un amour qui s'adresse à quelqu'un. Voilà. C'est un amour qui s'adresse au fait même de vivre. J'ai tendance à penser que cette clé, elle ouvre une dimension intérieure du langage. Enfin, je parle pas d'ésotérisme. À mon avis, il y en a pas chez Rimbaud.
Non, mais vous dites la charité, c'est la poésie elle-même.
Exactement. C'est-à-dire un élargissement, alors lui choisit de passer par le dérèglement de tous les sens, enfin, une expérience nocturne, enfin, d'affolement de soi-même, mais un élargissement de notre expérience, de notre regarder les autres. Il y a quelques contemporains de Rimbaud qui ont dit que cet homme c'était pas un fou furieux, Rimbaud. C'était un homme, même jeune homme, très calme. Qui suscitait des engouements, même Mallarmé, semble-t-il, était comme ça un peu frétillant face à lui.
C'est peu dire,
les mains de blanchisseuse, comme il disait. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, avait un grand projet, qui débordait même la poésie, qui peut-être réalisait la poésie, qui était une espèce d'amour. Alors, catholique, anti-catholique, pas du tout, parce que ses rapports avec Dieu sont très compliqués. Enfin,
Révolutionnaire,
oui. Il a eu une période...
L'amour, je veux dire.
Oui. Il a eu une période aussi communarde. Enfin, son amour s'adressait peut-être à la communauté. Enfin, mais vous voyez, je tourne en rond là en parlant. Et c'est pas, je fais pas exprès, c'est juste que qu'est-ce que c'est que la charité, a fortiori chez quelqu'un d'aussi sarcastique et révolté que Rimbaud? C'est un mystère, oui.
Que c'est quelque chose qui vous a un peu travaillé aussi, je pense au livre Trésorier payeur.
Exactement, c'est un livre...
Qui, j'imagine, regarde ça aussi d'une certaine manière, parce que le personnage principal, qui était une sorte d'anarchiste, oui. qui était très occupé justement par cette question de charité, qui était un livre qui, au fond, regardait Rimbaud.
Ah ben, qui travaillait par Rimbaud, vous avez absolument raison. C'était un banquier, tout comme... Rimbaud n'est pas devenu banquier, mais c'est quelqu'un qui, a priori, si on ne fait pas attention, a l'air de s'être rangé. Mais il a fait du commerce, voilà. Mais sauf qu'il s'agissait d'autre chose, enfin, de s'ouvrir encore plus à une chose qui peut-être nous échappe, qui nous dépossède, et qui est la poésie vécue.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite par Manou Farine.
Avec aujourd'hui à la technique Olivier Arnet, à la réalisation June Lauper, avec la collaboration de Virginie Leduo, et avec nous l'écrivain Yannick Hennel qui signe une nouvelle préface à l'édition anniversaire d'Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud aux éditions Poésie Gallimard. Est-il possible de saisir ce qui a lieu durant cette folle descente aux enfers? Écrivez-vous Yannick Hennel. Est-ce une traversée initiatique de soi-même, un auto-exorcisme, une expérience intérieure radicale, un voyage orphique, une bataille sexuelle, un manifeste de liberté libre? On écoute une autre voix et un autre texte aux accents orphiques.
You don't even wanna let them start. They're knocking now upon your door. They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart.
Children,
forgive us now for what we've done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the gulag.
Oh Children, Nick Cave and the Bad Seeds, un choix vôtre, Yannick Hennel, qui me réjouit beaucoup. Extrait de l'album Abattoir Blues, paru en 2004, un voyage orphique, comme vous le suggérez. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi ce titre-là en particulier?
Je pense que c'est un... Oui, c'est le rapport avec Rimbaud, pour moi, est immédiat. Enfin, ce qu'on peut faire avec le langage, la manière, le chant, vous me demandiez... tout à l'heure, au début de l'émission, à quel niveau de chant ça, comment est-ce qu'on se dit Rimbaud à soi-même tout seul, ou comment est-ce qu'on se dit ses propres phrases. J'aime comme Nick Cave devient lui-même une résonance, voilà, avec, ça devient du gospel, voilà, un hymne.
S'adresse aux enfants, il leur dit « Élevez votre voix, réjouissez-vous ». Rimbaud, c'est une lecture qui se déploie bien souvent à l'adolescence. Hein. C'est un petit livre qu'on trimballe à 16 ans dans la poche de son manteau, pour commencer en tout cas. Vous, ça a été votre cas aussi. Hein.
Mais je continue toujours, il est toujours dans ma poche.
À 16 ans. Qu'est-ce qu'on en fait une fois adulte? Est-ce qu'on le lit? Est-ce qu'on l'aime? Et est-ce qu'on le fréquente pour les mêmes raisons qu'à 16 ans?
Moi, j'essaye de rester fidèle à cette première déflagration, aussi à la déflagration causée par Les Chants de Maldoror, de Lautréamont ou Moby Dick de Melville, mais chacun ses livres. Et pour moi, le fait de me mettre à écrire, enfin, et à publier des livres, à devenir écrivain, comme on dit, ça a été un acte de foi vis-à-vis de Rimbaud, enfin. Vraiment, c'est les circonstances dans lesquelles ça m'a été donné. Enfin, c'était pas ce tout petit livre, Une saison en enfer, qu'elle a édité tout seul pour une des premières fois, finalement. C'était les œuvres complètes. C'est pas beaucoup plus gros, d'ailleurs. Mais d'un coup, à travers Rimbaud, sans y rien comprendre, sans doute, un paysage se donnait, qui était celui d'une autorisation, voilà. Paul Celan dit que la poésie, c'est une proposition d'existence. L'existence nouvelle m'était proposée, là, à 15 ans, une existence que j'avais envie de vivre, enfin, d'intensité pure.
Voilà ce que le comédien André Marcon en dit. C'était au micro de Marie Richeux sur France Culture, en 2011, pas très loin de ce que vous venez de nous dire.
Rimbaud, enfin, et particulièrement cette saison en enfer, c'est un texte qui m'a accompagné depuis fort longtemps, depuis l'adolescence, et que, que j'aime relire, et parce que j'ai constaté, entre autres choses, enfin, outre l'immense beauté du texte, c'est que dans la vie, il y a toujours des moments où on est dans des situations ou des pensées, et il y a parfois une phrase de la saison qui surgit et qui vient se poser sur la situation, sur la pensée en question, qui la décrit bien, qui s'adapte parfaitement. C'est un texte vivant. Il est toujours là, présent, prêt à se manifester, et c'est pas un livre qu'on sort de l'étagère, qu'on lit de temps en temps. C'est, il vibre et il vit, avec soi, un peu tout le temps, et dans maintes occasions, je me suis, il y avait une phrase qui arrivait, qui s'adaptait bien, et il y avait toujours cette compagnie, et quelle compagnie, enfin, c'est ce qui m'a frappé, c'est la fréquentation, la longue fréquentation qui sans doute produit ça, du texte. Et je suis toujours émerveillé par ce texte, je trouve qu'il est toujours mystérieux, qu'un mystère en dévoile un autre, enfin qu'il est sans fin, et comme ainsi sont les grands poètes.
Vous qui dites, Yannick Haenel, on croit avoir lu Rimbaud, mais c'est toujours la première fois. J'imagine que vous souscrivez à ce qui vient d'être dit.
Mais il a raison, André Marcon. Il a raison, ce texte est mystérieux aussi, parce que c'est un mystère au sens antique. Voilà. Et
En général, d'ailleurs, quand on, alors vous l'avez dit à demi mot, mais quand on vous interroge sur votre entrée en littérature, en tout cas ce moment de conscience, je ne parle pas de l'écriture, hein, mais cette entrée en littérature comme lecteur, ce moment de conscience d'un autre langage, vous évoquez évidemment vos années de pensionnaire à l'école militaire, la lecture de Moby Dick, suivie de Lautréamont et de Rimbaud. Alors Moby Dick tenant la corde, hein, depuis, en tout cas, c'est ce que vous dites à chaque moment de votre vie. Quand est-ce que vous avez besoin de Rimbaud ? À quel moment de vos vies, pourquoi pas vos vies d'ailleurs ?
Je sais bien d'en avoir plusieurs, c'est pas mal.
C'est pas mal. Est-ce que vous en avez besoin, Yannick Haenel ?
Oui, parce que je sais pas, j'ai une dévotion intégrale, permanente, parfois lourde pour la littérature. Enfin, donc je fais que lire et écrire. Je me promène avec pas mal de livres chaque jour dans une sacoche. Quand j'écris un roman, ce qui m'arrive pas tout le temps, mais ça dure 2-3 ans, j'ai toujours un vieil exemplaire des Illuminations cette fois-ci, un exemplaire un peu moche, il y a même pas de couverture, il est souligné, les mots sont entourés. C'est un bain, enfin un révélateur, comme le disait le photographe. Enfin, j'ai besoin de me, oui, c'est un besoin, enfin c'est un désir surtout. J'aime ça. De m'y replonger. Il y a ça, il y a des textes de bataille aussi que je trimballe, je le dis volontairement comme ça, avec moi, le coupable de bataille. Mais Rimbaud, c'est ma compagnie sur Terre, voilà. J'aime penser à lui, tout simplement. Enfin, il m'émeut. Ce que la poésie a fait de lui et ce qu'elle fait de nous, de chacun de nous, je crois que c'est la vraie grande histoire de nos existences. Je peux pas croire que qui que ce soit vive sans poésie. C'est impossible. Même celui ou celle qui ne sait pas que c'est de la poésie. C'est ça la vraie histoire de nos vies. C'est notre rapport avec le langage le plus étoilé, c'est-à-dire notre rapport avec la poésie, telle qu'on la vit.
Qu'est-ce qui vous a fait choisir le roman, alors?
Parce que je suis incapable de supporter les phrases que j'ai tenté d'écrire sous forme de poème. Je pense que Paul Celan, et je dis pas ça contre mes amis poètes, il y en a plein que j'admire, je pense que Paul Celan a scellé le destin occidental, au moins de la poésie. Voir des morceaux comme ça de phrases en vers, pas chez les autres, hein, mais chez moi. J'ai beaucoup de mal, j'y arrive pas comme ça. J'ai écrit des romans pour faire de la poésie. Je persiste à continuer à écrire des romans alors que je me fous totalement de raconter des histoires au sens de la story, du téléfilm. Parce que.
Ou même d'en lire d'ailleurs, c'est pas votre truc.
Voilà,
non plus.
Voilà. Il y a une dimension intérieure du langage, voilà. J'ai envie de le dire comme ça. Il y a une dimension intérieure du langage qui est présente dans les romans ou ailleurs, qui est avant tout poétique, qui déborde la raison, qui déborde tous les carcans, comme dirait Rimbaud. Et c'est ça qui m'anime. Enfin, moi, je suis un poète qui écrit des romans, voilà.
quand on pense aux figures ou aux personnages qui vous travaillent, Yannick Hennel, et travaillent votre langage, Rimbaud, Renard, du roman de Renard, Le Caravage, et même quand on y pense, Ismaël, dans Moby Dick, que la baleine épargne, hein, qui est le personnage, un personnage qui vous intéresse vraiment en premier lieu dans le roman de Melville, tous ces personnages-là ont affaire avec la fuite ou avec la possibilité de la fuite. Qu'est-ce que ça pourrait bien dire de vous ?
Alors,
ou de l'écriture ?
Je n'y ai jamais pensé comme ça, c'est vrai. Mais tel que rassemblé par vous, là, je vois... J'y vois... Alors, la fuite, vous avez raison, mais un écart aussi, surtout, et peut-être même, j'ose le mot, une forme d'innocence. C'est ça qui me travaille.
Que vous voyez chez Rimbaud aussi.
Que je vois chez Rimbaud, exactement, oui. Parce qu'il ne passe qu'une saison en enfer, enfin. C'est-à-dire que c'est pas un damné, Rimbaud. C'est pas un démoniaque, au contraire. Il sort de l'enfer. Il remonte à la vie, c'est dit dans le texte. Et je crois que ce qu'il y a de... Pour moi, le destin de la littérature, l'avenir de la littérature, ça a l'air d'être un grand mot, passe par quelque chose qui est l'indemne. Je pense que dans la littérature, pas que la française d'ailleurs, dans toute la littérature, il y a quelque chose qui échappe à l'enfer, justement, à l'enfer du monde, enfin, qui ne cesse de se soulever dans sa noirceur, dans ses ténèbres. L'indemne, au sens étymologique, comme vous le savez, c'est le non damné, ce qui n'est pas damné. Il y a une toute petite part, parfois, je dirais irréductible en chacun, même Duras raconte ça tout le temps, enfin, cette minuscule part sauvage, qui peut s'agrandir, enfin, dans l'amour et dans l'écriture. Chez Rimbaud, ça crève les yeux, je dirais, que cette sauvagerie initiale est ce qui le laisse intact. Il dit ça, il dit « j'ai eu raison dans tous mes dédains », ça a été lu tout à l'heure, mais il dit « je suis intact », ça
parle
est égal.
Il parle de ce carnet d'années,
voilà.
Par ailleurs.
Et il en sort, hein, de l'enfer, c'est pas donné à tout le monde. Enfin...
Alors, plutôt que de fuite, peut-être qu'il faudrait parler du dégagement.
Oui,
le dégagement rêvé qu'évoque Rimbaud. Ça, oui. Vous pourriez prendre à votre compte ce dégagement.
Mais je pense que c'est la condition même de la pensée, de la parole. C'est le sujet des livres que j'essaye d'écrire et c'est comme ça que j'accède à l'existence et en me dégageant un peu, pas totalement, mais un peu, en y rêvant en tout cas.
Merci. Une saison en enfer préfacée par vos soins et postfacée par Grégoire Beurrier vient de paraître aux éditions Gallimard dans la collection Poésie. Yannick Hennel, merci infiniment d'être passé nous en parler. Poésie et ainsi de suite, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission en partenariat avec La Croix L'Hebdo que vous pouvez réécouter, podcaster, partager sur le site de Radio France. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Touch the sky.